Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs depuis 2014, triathlète depuis plus de 20 ans et maintenant swimrunner. La semaine se termine et on finit bien avec le dernier épisode de la série. C'est le moment de nous laisser un commentaire sur toutes vos plateformes d'écoute favorites et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète. Mon co-animateur est toujours à mes côtés. Salut Olivier.
Salut Hermano.
Et notre invité de la semaine, Stéphane Leca. Salut Stéphane.
Salut.
On a effectivement bien parlé de toi toute la semaine sur ta carrière de haut niveau. Hier, on a parlé de ta reconversion en tant qu'entraîneur national, régional, renational. Pour finir la semaine, j'aimerais qu'on aborde comment est-ce que on prépare des petits jeunes qui veulent aller au JO, puisque mardi tu nous as dit que ça faisait partie aussi de tes missions de faire briller la France et notamment aux Jeux Olympiques qui vont bientôt avoir lieu. Dis-nous tout. Comment est-ce qu'on va à la pêche au talent?
Les nageurs d'Olive, enfin c'est avant tout des nageurs en bassin, parce que il faut un socle important et que l'on développe en grande majorité quand on est jeune en bassin, bien sûr. Ça n'empêche pas dès l'âge de 14 ans que ces nageurs-là, en fait, durant l'été, en fait, puissent faire quelques traversées. C'est très bien de le faire ou participer au championnat d'Europe junior. Mais moi, je dis que c'est très important également de faire du bassin parce que si on veut exceller justement au très haut niveau avec les Jeux Olympiques, il faut avoir une base très importante sur le demi-fond. Et je dis pas, quand je parle du demi-fond, je parle pas seulement du 1500, je parle du 400, 800, 1500, voire même le 200. Et donc, comment on fait? On repère les jeunes en fait qui ont des qualités en fait sur ces épreuves-là. Et puis après, on a une stratégie en fait de développement qui de façon à ce qu'ils puissent essayer en fait sur ces disciplines. Donc aujourd'hui, l'eau libre en France a un statut quand même différent que 2013. C'est-à-dire qu'on a des nageurs en fait du bassin qui font les deux en fait. On a de plus en plus de nageurs qui font les deux à l'image de ce qui se passe en fait au niveau international maintenant. Et donc voilà, c'est différent qu'en 2013, mais en 2013, moi j'ai une stratégie de communication en fait. C'est-à-dire que j'ai proposé à des nageurs sur les différentes catégories d'être préqualifiés en réalisant un temps en bassin. Et donc de septembre jusque à deux semaines des championnats de France, tous les mois je faisais paraître un fichier où il y avait les juniors 1, voilà les préqualifiés, les juniors 2, les juniors 3, et il y avait des jeunes en fait qui disaient mais moi je peux rentrer en équipe de France, t'as vu, je suis préqualifié. Il y avait les parents et moi je jouais en fait sur les réseaux sociaux également en fait, et avec ces tableurs je m'appuyais dessus de façon à dire aux gens Genot, toi aussi tu peux représenter la France sur ces championnats du monde junior. Et donc en fait ça fait rêver encore le drapeau, quoi qu'on en dise. Aujourd'hui, en fait, les couleurs bleu, blanc, rouge, en fait, en France, font encore rêver, j'en suis convaincu. Et donc, on a eu plus de monde, en fait, qui s'est inscrit, en fait, dans la discipline. Et puis, on a élevé le niveau, parce que le niveau de préqualification en bassin était élevé aussi. Et puis après, il fallait qu'ils s'expriment en eau libre.
Et Stéphane, tu parles des qualités, du coup, à identifier chez les jeunes. Est-ce que c'est uniquement en fonction des résultats et de la perf, ou est-ce que même au niveau de la physiologie, enfin au niveau du corps du nageur, est-ce que on peut reconnaître la différence entre un nageur d'eau libre ou un nageur en bassin?
Non, par contre les qualités mentales, oui. Mais sauf que le premier passage en fait, c'est la performance en fait chez les jeunes en fait. Donc c'est le temps de préqualification et puis après la capacité en fait à exploiter ce socle dont je parlais en eau libre pour finir dans les deux ou trois premiers ou premier. Et puis une fois qu'on rentre en équipe de France, on a aujourd'hui un staff qui permet en fait d'accompagner les entraîneurs et les nageurs dans le projet d'accession et au très haut niveau, avec dans le modèle de performance qu'on a construit, les différents paramètres qui sont remplis par des compétences externes ou internes à la fédération, de façon à optimiser les chances de réussite.
Alors tu parles justement de comment vous recrutez ces jeunes, que le drapeau fait toujours rêver, que le niveau en France est quand même relativement bon. Est-ce que tu peux nous faire un petite photo de ce que représente la natation en eau libre en France, ou même au niveau européen? C'est peut-être un positionnement de la France par rapport aux grandes nations européennes.
Alors, je vais reprendre ce que tu viens de dire. Donc, on est relativement bon en France. Donc, on a fait première nation mondiale en 2019 au championnat du monde. On a fait deuxième nation mondiale en 2017. On a Marc-Antoine Olivier qui a fait la première médaille olympique à Rio en 2016. Pour moi, Aurélie Muller a fait vice-championne olympique, mais elle a été déclassée, mais elle est quand même touchée deuxième. Depuis 2013, on a gagné 74 médailles internationales, dont plus de 50% en or. Et on a fini plusieurs fois première nation européenne junior lors des championnats d'Europe junior. Voilà, c'est des résultats en fait qui sont quand même importants. On est.
C'est pas relativement bon, c'est clairement bon, non?
Ah bah c'est toi qui as dit relativement, donc j'ai repris ton terme. Hein. C'est toi qui anime, hein. Donc chacun sa place. C'est comme en équipe de France. Et donc voilà, aujourd'hui en fait la place de la France en eau libre elle est importante à l'échelle mondiale, à l'échelle de la fédération aussi. Et j'en suis vraiment fier pour les nageurs et pour les entraîneurs qui sont et même les cellules familiales qui s'investissent là-dedans au quotidien. Je dis souvent lorsqu'on a été champion du monde le 1er juillet, le 2 juillet on n'est plus champion du monde, on a été champion du monde. Et donc c'est pareil pour la France, pour les classements par équipe. Voilà, on a eu des bons résultats. Ben il faut continuer.
On a de très beaux noms dans la natation bassin, notamment en France, qui depuis des années, à chaque fois qu'il y a des Jeux Olympiques, on voit des nageurs ou des nageuses qui sont sur le podium. On parle beaucoup moins de la natation en eau libre. Alors tu l'as dit, on a eu un Français à Rio. On aurait dû avoir une Française. Bon, il y a une histoire de déclassement. Mais je trouve qu'on en parle quand même beaucoup moins. Alors, est-ce que c'est dû au fait que c'est beaucoup moins médiatisé comme sport? C'est moins sexy que le bassin? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça, à ton avis? Et parce que là, c'est ton job, en fait, en tant que directeur.
Bah, ouais, enfin, sauf que c'est aussi le job, en fait, de Monsieur Lelay de France 2 d'arrêter de dire à ses communicants que les championnats du monde commencent uniquement la deuxième semaine des championnats du monde, surtout lorsque l'équipe de France d'eau libre a fini première nation mondiale en eau libre sur la première semaine. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mon job, en fait, c'est de le dire, mais jamais, en fait, je serai à la place de Monsieur Lelay pour lui dire, mais là, en fait, vous faites une bêtise parce que sur France 2 ou sur France 4, ça serait bien, en fait, d'arrêter de dire. Et puis, en plus, quand vous avez les droits de télévision et que vous les prenez pas, vous pénalisez la discipline. Mais sauf que moi, j'ai compris un truc, c'est que la danseuse de la discipline de natation, ça restera toujours la natation course. Ça sera jamais l'eau libre, ça sera jamais la natation artistique, ça sera jamais le plongeon, et ça sera jamais le water polo. Ça sera toujours la natation course parce que culturellement au niveau mondial c'est comme ça. Après, moi mon rôle en fait, moi dans mon contrat en fait avec le ministère, il n'est pas indiqué en fait que je dois faire la promotion de la discipline. Je le fais, mais je le fais parce que il y a des événements qui se créent, et il y a aussi des médailles. Mais j'ai pas à faire la programmation et des médias en fait, que ça soit en fait radio ou de l'équipe ou de France 2. Voilà, l'équipe en fait, il y avait aucun journaliste qui était présent au championnat d'Europe. Il y avait aucun journaliste de RMC qui était présent au championnat d'Europe. France 2 qui était présent, mais sur France 4 avec une retransmission pour les championnats d'Europe, c'était super, bravo. Mais on était très content pour une fois en fait que France 2 en fait fasse cette représentation, et d'ailleurs ça a été très suivi. Mais voilà, on sera jamais la danseuse, c'est pas grave.
Je pense qu'on peut prendre acte aux prochaines grosses manifestations, on essaiera de se faire le porte-parole de la natation en eau libre, et si tu veux venir témoigner de temps en temps, ce sera avec plaisir.
Je vis très bien ça. Ce qui est difficile, c'est pour les athlètes, et j'ai quelques athlètes des fois qui me disent, mais moi en fait c'est fini, je réponds plus à l'équipe. Et je lui dis, en fait il y a deux voies, enfin il y a deux choses en fait, soit tu réponds plus à l'équipe en fait, mais de toute façon ça ne changera rien, donc vaut mieux en fait être sympa avec eux quand ils sont là, parce qu'au moins en fait tu fais la promotion de ce que tu fais et de la discipline. Parce que le fait que tu répondes pas, ça ne changera rien.
Alors je te taquinais un petit peu avec ça, mais
non, mais pas de problème.
L'idée c'était d'embrayer sur une autre question. C'est justement, comme la danseuse de la natation, c'est la natation de course, la natation bassin. Est-ce que t'as pas des jeunes justement que vous essayez de porter vers le très haut niveau en natation en eau libre qui sont plutôt tentés de rester sur la natation de course, la natation bassin, parce que c'est plus médiatisé, parce que leur carrière s'en portera peut-être mieux, parce qu'au niveau des sponsors, au niveau des partenaires, ça marchera mieux qu'en eau libre?
Alors, j'en ai pas. J'ai des nageurs, en fait, en demi-fond qui sont bons, mais qui sont pas excellents, en fait. Les meilleurs nageurs aujourd'hui de demi-fond, c'est des nageurs d'eau libre. Mais, en même temps, j'avais dit, quand j'ai pris ma fonction en 2013, j'avais dit, si on veut être les meilleurs du monde en eau libre, les nageurs d'eau libre doivent être les meilleurs aussi en bassin. Et donc c'est ce qui se passe. Voilà. Après, vous savez, le champion du monde 2019, il est champion du monde sur le 1500 et sur le 10 bornes. Patineri, il est champion olympique, il a gagné les championnats d'Europe dernièrement en fait sur le 10 bornes. Marc Antoine, en fait, il a nagé 14,55 au 1500 cet hiver, non préparé.
Ça te fait rêver, Olivier.
Moi aussi, hein.
Mais moi aussi, hein. Franchement.
La cartographie est en train un peu de changer, et donc les deux se font. Donc c'est peut-être la chance de la discipline au libre, et je pense en plus que la discipline au libre va être de plus en plus, elle va monter de plus en plus parce que elle est tendance en fait, les milieux naturels, les gens ont de moins en moins envie de nager dans un bassin couvert, ils veulent en fait de l'espace.
Et puis surtout, tout simplement, il n'y a pas assez de piscines aussi. Enfin, je sais, bon,
bien
moi,
sûr,
moi, pour le coup, j'ai vécu à Paris et là maintenant je suis à Bruxelles, mais il n'y a pas suffisamment de piscines
complètement.
Pour le nombre de triathlètes, pour le nombre de nageurs, etc. Les piscines sont bondées.
Complètement. Et bon, donc voilà, ça c'est une chose. Et la deuxième, c'est que je pense que pour les Jeux Olympiques de Paris, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de grandes chances que le parcours se fasse dans la Seine, que la plaque d'arrivée et le départ en fait se fasse avec la Tour Eiffel sur la droite. Wow. Imaginez un Français qui touche premier sur la plaque d'arrivée avec la Tour Eiffel à droite, un peu plus haut.
Bah, franchement, ce serait le top, quoi.
Ça peut changer les choses.
Il faut avoir envie quand même de nager dans la Seine. Hein.
Bah, attends, t'es pas... Non, ça a beaucoup changé.
Hein.
Moi, j'ai fait le triathlon de Paris dans la Seine et je suis pas sorti avec des gros pustules. Hein.
Ah, c'est sûr qu'à Bruges, ça serait plus compliqué. Mais aujourd'hui, dans la Seine, c'est mieux.
Non, mais ça a beaucoup changé. Et puis c'est un peu dépollué avant les épreuves, non?
Mais vraiment, la Seine, en fait, Anne Hidalgo fait... Je suis pas du tout politisé, hein, mais Anne Hidalgo fait un gros travail, en fait, sur la qualité de l'eau, en fait, au niveau de la Seine. Il y a des gens qui se baignent tous les jours aujourd'hui, en fait, dans la Seine, y compris l'hiver. Il y a plus en plus de variétés de poissons. Il y a un gros travail de fait et il faut vraiment le souligner parce que c'est important.
Okay.
Et c'est pas des paroles en fait, il y a vraiment des actes importants.
Justement, en parlant de paroles et d'actes, on arrive au terme de ton interview, Stéphane, de cette semaine d'interview. Si on devait retenir qu'une seule chose peut-être de tout ça, de ton parcours, de tes actions en tant que directeur du développement de la natation au libre, du futur de tes nageuses et de tes nageurs, qu'est-ce que ça pourrait être?
Je sais pas, moi j'aime bien avoir l'idée et le rêve que par mon action j'ai un rôle social qui permet en fait aux gens de pouvoir avoir du plaisir ou développer du plaisir. Et si je peux faire ça par mon action, ben je remplis mon rôle. Si je le fais pas, c'est un peu creux, quoi.
Ah, donc si on passe de 3000 à 30 000 nageurs, par exemple, c'est une bonne manière de faire en sorte que les gens y trouvent du plaisir, j'imagine.
J'y espère.
J'ai plus qu'à espérer que dans 10 ans, on passe de 30 000 à 300 000, c'est ça?
À 300 000.
Bah oui, même un million, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème, on s'arrangera.
Un 60e des Français, ça risque d'être chaud si on se met tous dans la Seine ou dans les différentes rivières, mais pourquoi pas, ouais.
Bah, on a beaucoup de lacs en France, hein, on a beaucoup de lacs. Hein. Pas de problème, on fera des vagues.
C'est qu'à le dire. Super, merci beaucoup Stéphane pour avoir répondu à tout.
Au plaisir, merci à vous.
Juste avant de te laisser partir, la petite question traditionnelle, si les gens veulent te suivre, te poser des questions, suivre le développement de la Fédération Française de Natation en Eau Libre, où est-ce que ça se passe?
Bon, alors moi j'ai un compte Instagram, vous trouverez, je pense.
Ouais, on mettra tout ça de toute façon dans les notes de l'épisode.
Voilà, puis voilà, et après, voilà, j'ai un email en fait qui est sur le site de la Fédération. Voilà, alors j'essaie de répondre aux questions, j'en ai quelques-unes, mais si j'en ai beaucoup trop d'un seul coup, ben on avisera et je vous demanderai de l'aide. Mais en tout cas, je suis content d'avoir participé avec vous en fait à ce podcast et ça fait partie en fait de la promotion d'activité, c'est super en fait. Ce qui est important, c'est que les gens fassent du sport et qu'ils se fassent plaisir.
Super. Bah merci beaucoup Stéphane.
Complètement d'accord. C'est le but du podcast aussi, donc on se rejoint.
Parfait.
Merci beaucoup. Une très bonne journée, chers auditrices, chers auditeurs. Un très bon week-end. Et puis Olivier, on se retrouve la semaine prochaine.
Yes. Bon week-end. Merci Stéphane.
Merci à vous. Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode et peut-être même cette série hebdomadaire jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. Bon week-end et à la semaine prochaine. Salut les sportifs.